Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
J'adore cette petite phrase de Renaud. Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, c'est la saison. Et donc nous recevons un auteur de polar aujourd'hui qui revient aux sources de son personnage fétiche. Nous lirons la première page d'un roman culte, 30 ans et des poussières de Jay McInerney qui n'a pas pris une ride. Nous visiterons une bibliothèque, bien sûr, nous sommes partis chez William Scheller aujourd'hui, la classe. Nous irons nous balader dans une librairie, comme toujours à la 25e heure chez Christophe Daniel. Et ce grand enfant de Victor Dolan fermera la boutique avec son roman jeunesse, évidemment. Mais d'abord, donc, c'est l'invité. Suspense, oui bon, je viens de l'annoncer chez Sophie Larmoyer, mais quand même, allez, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Nom de Zeus ! Bon, c'est vrai que je ne perds jamais une occasion de passer un extrait de la musique de Retour vers le futur, mais là, ça se justifie. Franck Tillier est de retour dans le passé en 1991. 1991, c'est d'ailleurs le titre de son nouveau roman sous-titré « La première enquête de Charcot », c'est chez Fleuve Noir, avec une belle couverture genre dossier cartonné. Charcot a 30 ans, il a fait quelques années dans des commissariats du Nord et le voilà à Paris, au 36 quai des Orfèvres. Rien que ça, déjà, c'est de l'histoire. On l'envoie s'occuper d'affaires non résolues, trois meurtres de femmes, en l'occurrence, sur 3 ans, entre 1986 et 1989. Bonjour Franck Tillier.
Bonjour.
Pourquoi vous avez eu envie, comme ça, de retourner au début, aux origines de Charcot ?
Il y a plusieurs raisons. C'est un personnage que j'ai créé au début des années 2000. Il avait 43 ans et j'ai grandi avec ce personnage, puisque aujourd'hui, je continue à écrire des histoires avec lui dans le présent, en 2021. Mais j'ai vieilli avec lui et je me suis rendu compte finalement que je connaissais assez peu le passé de ce personnage, de savoir d'où il venait, pourquoi il avait exercé ce métier, qu'est-ce qui était à l'origine de son obsession pour la traque des criminels, pourquoi il était devenu policier et pourquoi quelqu'un du Nord, comme lui, qui a grandi un peu dans les corons, se retrouvait un jour au 36 quai des Orfèvres, qui est le service le plus prestigieux de la police. Donc c'était l'occasion voilà, de raconter les origines quelque part de ce personnage.
Et ça fait 15 ans que vous viviez avec lui, que c'est votre copain, et vous vous êtes jamais posé la question ?
Si, je connaissais un peu le passé par petites touches, mais finalement, non. En fait, je ne suis pas du genre à faire des fiches de personnages et de les archiver. Donc, en fait, Charcot, je l'ai créé un peu au fur et à mesure, quoi, au fur et à mesure de son évolution et de ma propre expérience de romancier. Et ouais, là, je me suis posé vraiment les questions de me dire, mais les parents de Charcot, à quoi ils ressemblent, pourquoi, qui ils sont, j'en parlais jamais en fait dans les romans. Et voilà, donc j'ai eu cette envie de ramener un Charcot jeune, parce qu'aujourd'hui, en 2021, il a quand même 60 ans, donc il se rapproche un peu de la retraite. Et j'ai eu envie vraiment de lui redonner un coup de jeune où il était encore en pleine forme, il a 30 ans, il est un peu naïf aussi, on va le découvrir dans le roman, il idéalise un peu le métier de policier, il rêve de grandes enquêtes. Et il va traverser cette première enquête qui va le marquer et qui va expliquer pourquoi aujourd'hui il est tel qu'il est aujourd'hui en 2021.
Et pourquoi 1991 précisément ?
Bon, il y a plein de petits détails qui font que c'était cette année-là. Alors, à titre personnel, c'était l'année de mes 18 ans, donc j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs.
Ça compte.
C'est l'année où je quitte le cocon familial pour mes propres études, donc un peu l'envie de liberté, les copains et puis le travail aussi d'étudiant. 91, c'est une année extrêmement importante aussi dans le milieu policier. Et ça, je l'ai vraiment vu en creusant cette époque-là, 90, 91, 92. C'est l'arrivée au ralenti de la technologie.
Oui.
Je le dis dans le roman, les ordinateurs sont là au 36, mais ils sont encore dans les cartons. personne ne veut les ouvrir parce qu'on veut continuer à travailler.
Faire, en fait.
On a peur, en fait, les ordinateurs font peur. Mes parents n'étaient pas policiers, mais les ordinateurs ont fait peur à tout le monde à cette époque-là. Et donc, c'est vraiment un moment de transition entre les anciennes méthodes de la police qui venaient un peu sur leur fin et puis l'arrivée de toutes ces technologies, les fichiers informatiques, la police scientifique qui va transformer un peu la manière de travailler des flics.
Alors évidemment, on s'amuse, on trouve des annuaires qui servent à trouver des numéros, mais pas que, oui. Dans la police. Des fax, une Renault 21 neuve, ouais, ça c'est rare. Ça. Une Renault 19 aussi, d'occasion celle-là. Ça commence même avec un Walkman à cassette, c'est dire. Vous êtes creusé un peu la tête pour retrouver ces accessoires préhistoriques.
Oui, bah, comme vous dites, préhistorique, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment un autre monde, un peu Jurassic Park.
C'est vrai. C'est...
Oui, alors il y a ces objets cultes et mythiques qui provenaient de mes propres souvenirs, parce que moi, c'était le Minitel, par exemple. C'était, j'ai découvert les résultats du bac sur Minitel, et il y avait un vrai suspense, parce que ça s'affichait, je ne sais pas si vous vous rappelez,
pareil,
au ralenti, pareil. Ligne par ligne. Et donc, j'ai vraiment éprouvé beaucoup de plaisir à ramener ces vieux objets.
Est-ce qu'il y a des trucs que vous avez... Est-ce que vous êtes allé chercher? Est-ce que vous avez juste... vous êtes fait confiance avec votre mémoire? Ou est-ce que vous avez ouvert des vieux bouquins de l'époque, regardé des films de cette époque-là pour vous dire « Tiens, mais ça, j'y ai pas pensé, bien sûr. »
Oui. En fait, on se rend compte que quand on retourne dans le passé, le monde est allé tellement vite ces dernières années qu'on ne sait plus bien situer où se trouvaient les objets, les événements. On a l'impression que, par exemple, très récemment, on a parlé de la mort de Serge Gainsbourg. Ça fait 30 ans. Enfin, pour moi, dans ma tête, avant de faire ces recherches pour 1991, quand j'ai découvert que Gainsbourg était mort, effectivement, quand je me suis rappelé qu'il était mort en 91, je me suis dit, mais ça fait 30 ans, c'est incroyable, parce que j'avais l'impression que ça faisait 15 ans, enfin, que le temps était beaucoup plus court. Donc voilà, on perd un peu la notion du temps. Et donc, par exemple, est-ce qu'à cette époque-là, dans les immeubles, est-ce que c'était encore des concierges ou est-ce que c'était des digicodes?
Enfin, voilà, il y a un digicode assez vite et je me suis dit, mais alors là, il s'est planté, ça n'existait pas. Et j'ai vérifié.
Oui.
Et oui, effectivement, c'est assez vieux le digicode. Hein, c'est les années 80, en fait.
Oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment toute cette période-là qui était un peu floue pour moi. Et puis, aussi, évidemment, beaucoup de recherches dans le milieu de la police pour savoir... est-ce qu'on commençait déjà à avoir accès à des informations dans des fichiers? Est-ce qu'on allait faire des recherches à la main, notamment pour les empreintes digitales? L'ADN, où est-ce qu'on en était? Parce qu'on était au balbutiement de ces technologies-là. Donc, il fallait
le
vraiment
papier carbone?
Alors le carbone, oui.
Pour les plus jeunes qui nous écoutent, ça servait à faire une copie. On écrit, on met un papier carbone entre deux feuilles blanches, et quand on écrit sur la première, ça écrit sur la deuxième.
Oui, c'est extraordinaire le papier carbone. D'ailleurs, les magiciens adorent le papier carbone parce que ça permet de, comme vous dites, de dupliquer des informations. Et ça, c'est vraiment des anecdotes de policiers en discutant avec eux, qui ont vécu cette époque-là, 91, qui me disent, mais par exemple, le papier carbone, c'était vraiment l'or du 36. Tout le monde en cherchait, donc on le cachait dans des tiroirs à cadenas pour pas qu'on nous le vole. Et donc voilà, ça, c'est aussi dans les discussions avec les plus anciens qui m'a permis d'apporter vraiment du détail et de l'anecdote dans mon roman.
Est-ce que vous avez traqué les anachronismes? Est-ce que votre éditeur vous a dit ah, attention, ça, non, c'était après ou...
Oui, ben, on les a traqués. Ben, alors, c'est pas un roman historique, hein, parce que roman historique, on remonte encore plus dans le temps, mais ça fait 30 ans quand même, donc il faut être vigilant à... Bon, par exemple, aux coupes de cheveux, moi je me disais, mais comment on se coiffait à l'époque? Alors c'était l'époque des, chez les policiers, un peu ce qu'on appelait les rouflaquettes, ce sont les longues pattes, ouais. Un peu frisées comme ça, qui descendent jusqu'au menton, les costumes, voilà. Donc vraiment traquer un peu tous ces détails, les voitures, quelles étaient les voitures, comment on se déplaçait, les cabines téléphoniques, c'était à pièce, à carte. Donc il y a un peu toutes ces recherches-là. Donc on les a traqués, et puis à quoi ressemblait le Paris aussi des années 90, avec ces quartiers qui est en pleine mutation, le Marais, la Goutte d'Or. Donc là, je suis allé vraiment puiser dans des journaux, par exemple, de 1991, des journaux de quartier qui me donnaient vraiment des détails très précis de ce à quoi ressemblait le Paris en 1991.
Alors, l'intrigue de départ, c'est toujours une bonne gifle avec vous. Et là, c'est un type un peu lambda qui reçoit une lettre tapée à la machine à écrire. Et puis, il y a une sorte de petite énigme. On lui dit penser à un prénom féminin. Il pense à Delphine, il ne sait pas trop pourquoi. Puis, dans la phrase d'après, sur la lettre, on lui dit bon, bah, ouvrez les fleurs du mal à telle page. Et quand il ouvre, il s'aperçoit qu'il y a Delphine, le prénom, dans le vers de Baudelaire. Il se dit, mais c'est complètement dingue. C'est une sorte de tour de magie, en fait, hein, ou alors de la télépathie, quoi. Et la suite de la lettre, c'est maintenant, il faut que vous alliez, si vous voulez en savoir plus sur vos capacités, comme ça, télépathiques, il faut que vous alliez chercher dans une boîte aux lettres dans le Marais à Paris une lettre et que vous l'ouvriez. Et donc il y va, et puis il ouvre la lettre, et dedans il y a une photo d'une femme qui manifestement a été torturée avec un sac en papier sur la tête et puis autour d'elle des photos d'enfants dénudés. Ça ressemble à un truc pédocriminel avec un meurtre très sadique au milieu. Et c'est comme ça qu'il va voir la police et qu'il rencontre Charcot. Il faut toujours comme ça, vous la pensez, vous la travaillez, vous la poncez, vous la rabotez cette scène d'entrée.
Ah oui, oui, la scène d'entrée, mais pour moi, l'un des moments les plus importants, c'est la découverte du livre par le lecteur. Il faut l'accrocher tout de suite. Et dans le thriller, vraiment, je cherche pour chaque livre à écrire la scène la plus intrigante possible, de démarrer par un paradoxe, une impossibilité, pour que le lecteur se dise « mais comment c'est possible ?» Et évidemment, les lecteurs qui me connaissent savent qu'il y a une explication rationnelle. Et c'est ça qui est un peu la force des histoires, vous l'avez très bien dit, d'ouvrir une lettre et de penser à un prénom au hasard, Delphine, et c'est écrit derrière la lettre, c'est le prénom auquel il fallait penser. Les gens se disent, mais comment il va réussir à se sortir de là, moi, le romancier, et je m'en sors, enfin, j'espère. C'est un vrai tour de mentalisme, hein, parce que l'univers, on va dire, de ce roman est autour de cet univers-là.
Et de la magie, qui est aussi, en fait, le métier des écrivains de polar. C'est un peu des magiciens, on va y revenir dans un instant. On retourne quand même en 2021, quelques minutes, et on se rejoint en 1991, tout de suite après ça.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Caro.
Retour dans La Voix est libre et dans le passé avec Franck Tillier et son roman 1991 chez Fleuve Noir. La première enquête de Charcot, son personnage fétiche. Alors, Charcot, donc Franck, votre personnage récurrent, a 30 ans, il vient d'arriver aux 36. Il travaille sur de vieilles affaires non résolues, mais un jour, il tombe sur une scène d'horreur, un crime particulièrement sadique, et l'enquête commence. Mais c'est pas le Charcot qu'on connaît. Il est très impressionné, forcément, c'est la première fois qu'il a affaire à ce type de scène. Vous avez dû revenir, Franck Tillier, aux sources de la psychologie du personnage que vous avez développé depuis 15 ans. C'est pas évident, ça.
Non, non, c'est pas évident de revenir dans la genèse de ce qu'a créé un personnage.
De lui refaire une virginité, en fait.
Quoi. Oui, c'est ça, c'est le recréer dans le passé, le réimaginer, et surtout pour que ce soit cohérent avec tout ce que j'avais déjà écrit, c'est-à-dire cette 9 Tom avec Charcot. Avant de réécrire cette histoire, j'ai reparcouru tous les livres avec Charcot à la recherche de tout ce qui était temporalité, caractère, voilà, pour en sortir une espèce de vraiment de fiche très très précise pour ne pas me tromper dans celui-là. Et mais ce qui était intéressant, c'est qu'on reprend un Charcot qui est au bas de la hiérarchie, il est tout nouveau, il débarque au 36, donc c'est un peu le bleu.
C'est la première fois qu'il sort son arme, par exemple.
Oui, c'est la première fois, c'est sa première grosse enquête, il va assister à sa première autopsie. En fait, il va suivre un parcours qui est celui de l'inspecteur de police qui travaille dans un service de crime, qui est un service très difficile, puisqu'ils sont confrontés aux histoires les plus sombres, et c'est une épreuve du feu pour lui. Lui, il idéalise le 36 Quai des Orfèvres, mais la réalité est bien différente et bien plus dure que ce qu'il avait imaginé.
Ce qui est génial aussi quand on retourne en 91, c'est qu'il n'y a pas de téléphone portable. Il n'y a que des téléphones fixes. Et ça change tout dans une enquête et dans l'action et dans le rythme d'un roman. Il faut trouver une cabine quand on veut appeler les renforts. Et puis, il faut un atlas routier pour trouver une adresse, pas un GPS. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Évidemment, dans l'intrigue, bien sûr, mais dans votre manière d'écrire, dans votre rythme. Est-ce que vous l'avez senti, vous ?
Oui. D'ailleurs, c'était l'une des principales difficulté de l'écriture de 1991, parce que dans mes thrillers, d'ordinaire, j'ai un rythme très soutenu, il se passe toujours quelque chose. Il faut des résultats ADN, on les a très vite, ce qui permet à l'intrigue d'avancer à grande vitesse. Mmh. Et là, il y a une certaine lenteur en 1991, liée à l'époque, liée à l'administration, liée au manque de technologie, qui fait que voilà, il faut s'adapter à cette époque, tout en gardant le rythme qui est le mien. Donc j'ai essayé de rendre l'histoire la plus intéressante possible, avec un suspense omniprésent comme je le fais à chaque fois, mais avec le rythme de 1991. Ce qui était génial, par exemple, c'est dans la scène d'ouverture, quand Charcot découvre le corps, cette fameuse scène de crime, dans une petite maison au milieu de la forêt. La première chose qu'il dit, c'est qu'il dit « faut que je trouve une cabine téléphonique ». Et quelque part, c'est la conclusion du chapitre, comme si c'était un twist incroyable. Et c'est vrai que je me suis dit « mais oui, la cabine téléphonique, les gens qui vont lire vont se dire mais oui, c'est vrai, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Comment on faisait ? C'est vrai qu'il fallait trouver une cabine téléphonique. » Donc, il y a une espèce de suspense comme ça, très jouissif, qui se crée par rapport à cette époque d'il y a 30 ans dans le passé.
Mais on se rappelle surtout qu'on n'a pas besoin d'aller vite pour créer le suspense. Hein. Il y a un moment où il est fait référence à la chambre jaune de Gaston Leroux, début 20e. Il y a énormément de suspense. On peut citer tous les Agatha Christie, tous les Conan Doyle, etc. Et il y a quelque chose de la magie aussi dans la chambre jaune. Et dans votre livre, dans celui-ci en particulier, il y a beaucoup de références à la prestidigitation et aux magiciens. D'ailleurs, en exergue, il y a des citations. Je vous en lis une. Le public ne voit pas la pièce, le lapin ou la fille disparaître parce qu'en réalité, ils ont disparu bien avant que le magicien ne feigne de les faire se dissiper dans l'air. C'est au mauvais moment que le public regarde avec le plus d'attention. Ça, c'est Clayton Ronson. C'est qui d'ailleurs, Clayton Ronson ?
Ah bah c'est un grand magicien. Voilà, mais en fait, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est qu'en faisant ces recherches sur la magie, sur le mentalisme, je me suis rendu compte du parallèle vraiment flagrant entre le métier de romancier et de magicien. On fait exactement la même chose.
C'est ce que j'allais vous dire.
Quand le romancier agite la main, enfin le magicien agite la main droite, il fait quelque chose avec la main gauche, et le romancier fait exactement pareil. Il dit au lecteur, mais il attire l'attention par exemple sur un personnage, et puis derrière, il est en train de construire son intrigue. Et effectivement, par exemple, la révélation finale du livre, qui est le propre du thriller, ben c'est un peu l'effet du tour de magie, c'est-à-dire de faire monter toute la sauce pour avoir la révélation la plus forte possible. Il y a l'acharnement dans le travail, qui est celui du magicien qui répète son tour, celui du romancier qui, tous les jours, réécrit son texte. Donc, il y a vraiment beaucoup de parallèles entre ces deux professions.
On a parlé tout à l'heure, parce qu'il y a aussi beaucoup de références au mentalisme, on a parlé tout à l'heure de cette histoire de prénom, il faut penser à un prénom, puis en fait quand on tourne une page, on s'aperçoit que c'est bien le prénom qui était là, alors que statistiquement, il n'y a aucune chance que ça n'arrive. Et il y a un moment, il est question, mais c'est Charcot qui raconte cette fois-ci, de l'histoire d'un jockey fascinante. Je me demande si c'est vous qui l'avez inventé, et est-ce que vous pouvez nous la raconter ?
Oui, c'est la force des tours de mentalisme. Alors, l'histoire du jockey, c'est que j'ai inventé, mais que j'ai adapté, parce qu'il y a un mentaliste qui faisait ce tour-là. C'est un jockey qui un jour se promène dans la rue et reçoit un échafaudage. Il décède. Et en fait, les personnes qui arrivent sur place trouvent dans sa poche un message en disant, voilà, je vais mourir aujourd'hui à telle date, donc il y a la date exacte de l'accident, je vais mourir d'un accident, dites à ma femme et à mes enfants que je les aime. Et or, l'accident est complètement improbable, on ne pouvait pas prévoir ça. Et ça, c'est en tant que lecteur, en tant que spectateur, on se dit, mais comment c'est faisable ? Et en fait, je ne sais pas si je peux révéler...
Ah bah oui, dans le bouquin, vous le révélez.
Oui, je le révèle assez rapidement, c'est qu'en fait, ce jockey avait tellement peur de mourir un jour d'un accident, de tomber de cheval, que tous les jours, en fait, il rédigeait un message à la date du jour en disant « Je vais mourir aujourd'hui, le 8 avril 1975. » Et il glissait ce message dans sa poche. Et tous les soirs, comme il n'était pas mort, il cachait ce message en fait, sous son lit. Et le lendemain, il recommençait.
Et c'était une petite victoire.
Un jour de plus gagné. Mais ça prouve bien aussi en même temps que pour réussir un tour et pour surprendre le plus possible, c'est parfois un tour qu'il faut répéter des heures et des heures, voire toute sa vie. C'est-à-dire, quand on est mentaliste, il faut l'être le jour, la nuit. Mais comme il y a un parallèle aussi très fort avec le romancier et aussi le policier, qui est policier H24, comme on dit.
Et nous, on voit la conséquence, en fait, quand on découvre ce pauvre jockey mort, mais on ne connaît pas tout ce qu'il y a en amont. Et c'est ça ce qui fait que ça nous impressionne beaucoup, alors qu'en fait, il n'y a pas de mystère.
Il n'y a pas de mystère. Et c'est un peu ce que font les policiers. C'est-à-dire, ils ont le résultat final avec une scène de crime et ils font un peu comme... essayer de comprendre quel a été le tour du criminel et de remonter comme ça aux causes en fait et aux origines.
Et c'est ce que font les écrivains. Est-ce que, Franck Tillier, vous allez bientôt commettre le crime, le meurtre que beaucoup de romanciers de polar commettent, c'est-à-dire tuer votre héros, Charcot, c'est le syndrome Sherlock Holmes, quand Conan Doyle tue Sherlock Holmes, parce qu'il en a marre.
Oui, ça arrive et c'est très triste. Alors Charcot, c'est un personnage que...
Et après, ils le ressuscitent.
Oui, bah, ils sont contraints. Alors ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire la capacité qu'ont les lecteurs à penser que les personnages de papier sont des vraies personnes. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Et pour un auteur, c'est la plus belle des récompenses. Quand les gens viennent vous voir et vous disent « Mais Charcot, ne lui faites pas de mal. Surtout, ne le tuez pas. » Ça m'arrive tout le temps sur les salons du livre. Et ils en sont tristes, quoi. Et donc, voilà, je réfléchis un peu à ce qu'ils me disent.
Ah, quand même, vous y réfléchissez.
Alors, pas le tuer, justement, à ce que les gens me disent, parce que le dessin de mes personnages, je le construis aussi avec les retours des lecteurs, qui sont toujours très, très importants. J'en tiens beaucoup compte. Et puis, je ne veux pas me tirer une balle dans le pied, parce que c'est un personnage que j'aime. Ce qu'il va falloir gérer, par contre, c'est un peu son... il approche de la retraite, donc voilà, il est plus aussi vif qu'avant, mais c'est quand même un super enquêteur, donc... on va s'adapter et puis voilà, continuer à raconter de belles histoires avec ce personnage.
Merci Franck Tillier. Le reste, tout le reste, nous n'avons qu'effleuré l'intrigue, ne vous inquiétez pas, est à lire dans 1991 chez Fleuve Noir. Restez avec nous Franck dans un instant, le livre culte 30 ans et des poussières de Jay McInerney. Rien à voir, encore que c'est aussi une machine à voyager dans le temps d'une certaine manière. À tout de suite.
La Voix est livre. Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est libre, il est l'heure du livre culte. J'ai choisi 30 ans et des poussières de Jay McInerney. Il fait partie de la fine équipe des écrivains new-yorkais des années 80 avec Bret Easton Ellis ou Donatarte. Il s'est fait connaître en 84 avec son premier roman Bright Light, Big City, bizarrement traduit en français par Journal d'un oiseau de nuit. C'est le New York des années 80, de la drogue et de la fête et du fric. Dans 30 ans et des poussières, publié en 1992, c'est l'histoire de Corinne, courtière en bourse, et Russell, un éditeur. Ils traînent avec leurs copains branchés. Tout le monde est vraiment très drôle, et cool, et spirituel. Mais la vie les rattrape, les erreurs aussi. C'est un livre sur le désenchantement, sur la fin de la fête aussi, dans la lignée de Gatsby le Magnifique. Et c'est un roman génial. Voici la première page, lue par le très branché Philippe Dussault.
Trente ans et des poussières. Tandis qu'elle presse du citron sur les filets de sole dans la cuisine, Corinne entend la voix de son mari qui couvre les autres. Peut-être parce que cette voix est la plus forte, ou parce qu'elle y est particulièrement sensibilisée. Cette voix qui s'approche maintenant, venant du vestibule, dirigée à rebours vers le salon, mais se déplaçant vers elle. « Je préfère le vieux modèle !» Russell ne parlait pas, il tonitruait. « Le vieux modèle de quoi ?» demande-t-elle, quand il entre bruyamment dans la cuisine, qu'il emplit presque de tous ses membres. Une de ces cuisines d'appartements new-yorkais d'avant-guerre. Pas vraiment faite pour le travail sérieux, mais plutôt, dirait-on, pour la préparation hâtive, à 3h du matin, de quelques œufs brouillés, en rentrant d'écouter Benny Goodman au Store Club. « J'ai acheté assez de poisson ?» demande-t-il en remplissant de nouveau le verre à vin de Corinne, posé sur la paillasse, tout en jetant par-dessus son épaule, criblé de pâles taches de rousseur, un coup d'œil à la cuisinière électrique, puis, subrepticement, sur le devant de sa robe. « Jolie robe, » dit-il, « pour un anniversaire. »« Merci, » dit-elle. « Maintenant, vas-y, critique ma coiffure. » Il discutait souvent de sa coiffure avant de sortir ou de recevoir. Il aime ses cheveux défaits, trouve ça sexy. Elle préfère les relever. Ce soir, elle a relevé ses cheveux dorés en un chignon natté, un peu lâche, retenu par un ruban de velours noir. Et il les aime quand même, se complaît à l'idée qu'il est marié à cette élégante créature.
C'était la première page de 30 ans et des poussières lue par Philippe Dussault. Franck Tillier, vous êtes toujours avec nous. Vous publiez 1991 chez Fleuve Noir. Quel est votre livre culte? Et alors, ça me fait plaisir pour une fois. Vous avez ramené votre livre culte. C'est très rare parmi mes invités. Merci d'y avoir pensé. Ça s'appelle Ripley de Ken Grimwood. Qu'est-ce que c'est?
Oui, alors c'est mon livre culte. Et j'ai vraiment envie de faire découvrir ce livre aux auditeurs. Je trouve que c'est intéressant de parler d'un livre que les gens connaissent pas a priori. On parle de voyage dans le temps, de retour en arrière, c'est vraiment ce type de livre. Alors, le livre débute avec la mort d'un homme qui est au téléphone avec sa femme, qui s'appelle Jeff, qui a 43 ans et qui meurt d'une crise cardiaque. Et il se réveille à l'âge de ses 18 ans dans sa chambre d'étudiant, avec tous ses souvenirs du monde dans lequel qu'il vient de vivre pendant toutes ces années. Alors, il se réveille en 1963, année de l'assassinat de Kennedy. Et donc voilà, une nouvelle vie s'offre à lui, c'est-à-dire cette possibilité incroyable d'utiliser tous ses souvenirs pour essayer peut-être de modifier le destin, d'avoir une vie meilleure. Il va jouer au tiercé parce qu'il connaît déjà le résultat des courses. Il va acheter des actions Microsoft et IBM parce qu'il sait ce que c'est devenu. Et ce qui est terrible, c'est qu'à nouveau, à l'âge de 43 ans, il va de nouveau avoir une crise cardiaque qui est terriblement douloureuse et sa vie va recommencer à 18 ans et ainsi de suite. C'est un vrai livre... qui permet de réfléchir sur le destin, sur ce qu'est la vie. Est-ce que notre vie serait meilleure que celle qu'on a aujourd'hui? Quelle serait la vie parfaite? Il se rend compte qu'à chaque fois qu'il essaye de mener une vie, finalement, elle part un peu en vrille, elle est toujours moins bonne au final que celle initiale. Donc c'est un roman plein d'émotions, d'amour, il y a une belle histoire d'amour à l'intérieur, et évidemment un suspense incroyable, et l'une des plus belles histoires autour du thème du voyage dans le temps qui, moi, me fascine.
Ah ouais, ça a l'air génial. Ripley de Ken Grimwood, c'était au seuil, c'est un vieux livre, enfin des années...
80, c'est sorti dans les années 80.
Il a bien vécu, il a été bien lu, ouais. Avec une très belle couverture. Restez avec nous, Franck Tillier. Dans un instant, nous partons visiter une bibliothèque et pas n'importe laquelle, nous partons chez William Scheller. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
La Voix et Livre continue, nouvelle page. William Scheller vient de publier son autobiographie William aux éditions des Équateurs. C'était l'occasion de le rencontrer. On a fait un peu de route avec Fabien Duchesne, l'ingénieur du son, et ça valait le coup. Bonjour William Scheller.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous.
Ça fait plaisir de voir du monde.
On est au milieu de la forêt, pas très loin d'Orléans.
Oui.
Et dans une jolie maison avec un petit jardin et tout. On a vu sur les arbres. C'est magnifique. Et là, on est dans votre salon où on trouve des bibliothèques et des livres. Mais il y a une décoration particulière. Et il y a notamment ce cadre qui m'intrigue. Qu'est-ce que c'est? On
dirait ça, c'est
une image de Lovecraft, un peu comme ça.
Non, c'est Philippe Drouillet, ça. C'est une lithographie. Qui d'ailleurs est un collector. Enfin, c'est lui qui me l'a offerte. C'est un collector parce qu'il y a une faute d'orthographe dans l'impression. Bref. Mais c'est tout re-signé, signé, signé. Et en fait, c'est ça, son concept ou son extrapolation à partir de l'île des morts de Böcklin, dont j'ai de l'autre côté une version peinture d'origine. Enfin, d'origine, c'est pas la vraie. Mais à partir de là, il est parti et puis il a construit un truc, un Drouillet, quoi. Enfin, machin. Ça, c'est un buste de Drouillet. C'est, enfin, un buste, oui, enfin, si on peut dire. C'est un dôme de cristal qui s'appelle le Chaman. On a beaucoup travaillé ensemble.
Alors, on est là pour parler des livres. Quel est votre rapport à la littérature?
Ah, et c'est important. Ça a été ma première compagnie. Parce que. Je voyais très très peu ma mère et mon beau-père. Et je vivais chez ma grand-mère qui, elle, travaillait au théâtre des Champs-Élysées. Et tous les jours à 7h, elle partait. Et je me retrouvais tout seul dans son petit appartement à lire n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Alors, il y avait, des trucs genre Harlequin. Bon. Et puis, quand même, je regardais. Il y avait des volumes d'un truc qui me paraissait intéressant parce que je croyais ça pour un grand livre sérieux d'histoire, quoi. Ça devait se passer au XVIIe siècle. Ah, alors je regardais ça et je me suis lu entièrement Marquise des Anges, par exemple, à 12 ans, en trouvant qu'il y avait quand même des détails qui étaient quand même assez curieux pour l'époque, quoi. Ah ben dis donc, ils vivent une drôle de vie. Alors quand ils s'en sont rendus compte, ils m'ont acheté des collections... collection verte, signe de piste, enfin des machins comme ça, où c'était des scouts, alors il y avait une vague histoire, et puis après c'était des bagarres entre scouts, ils allaient se baigner tout nu dans la rivière, je me disais, enfin qu'est-ce que c'est que tout ce bazar, quoi. Mais je lisais aussi bien des pièces de théâtre qu'elle me rapportait à Marie Stuart, c'est Victor Hugo, elle me rapportait Le Prince de Hombourg, des choses comme ça. Donc c'est un mélange incroyable. J'avais aussi, des Dworkin et la comtesse de Ségur, tout ça. Mais tout ça, c'était un mélange. Et puis j'écoutais beaucoup la radio. Si je n'écoutais pas les livres, si je ne lisais pas les livres, j'entendais quand même des histoires. Pierre Bellemare qui racontait, alors c'était un petit peu à la mode à l'époque, qui racontait, et peut-être pas encore, qui racontait le troisième œil de l'absent grand pas. Alors tout seul dans la radio, la vieille radio en bois avec un œil vert.
C'était plus l'histoire qui vous intéressait dans les livres que la sonorité des mots pour l'instant.
Pour l'instant, oui.
En tout cas, vous aviez des goûts éclectiques. On les retrouve ici dans votre bibliothèque. Il y a beaucoup de romans, des Pléiades. Il y a Colette ici, on va en reparler. Je sais que vous aimez beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de livres d'histoire, de chroniques d'histoire.
Très bien. J'aime bien les deux.
Qu'est-ce que c'est que cette collection de petits livres rouges très, très jolis ?
Elle n'est pas terminée. Bon, c'est une collection qui a été... Cette collection qui a été créée et éditée de façon très sérieuse, parce qu'il y a des pages et des pages et des pages pour expliquer comment ça a été imprimé. Mais en fait, ça s'appelle... C'est Louis-Sébastien Mercier, très peu connu.
Tableaux de Paris.
Oui, les tableaux de Paris. Il y en a deux volumes, et ça va de 1880... Oui, je te dis, 1883... jusqu'à 86, mais pas la Révolution. Parce que pendant la Révolution, il est devenu un peu politique. D'ailleurs, il a fait un petit peu la Bastille, enfin, etc. Il y a des lettres qu'il écrivait à sa femme, enfin, qui lui apportait ses dîners. Et ensuite, il a fait Le Nouveau Paris, qui est un peu...
Ce sont des chroniques, en fait.
Ce sont des chroniques, oui. Oui, mais enfin, il a écrit quand même des pièces de théâtre. Il a écrit des romans, 2024. Qui n'est pas très intéressant. Mon bonnet de nuit, par exemple. Bon, ça, c'est critique de théâtre. Il a fait... Bon, Le Nouveau Paris, c'est très intéressant, ça.
Il y a beaucoup, beaucoup de livres sur les compositeurs, sur les grands compositeurs.
Bah, c'est normal.
Vous allez chercher quoi dans leur vie ? Des idées, des inspirations ?
Non, il faut au moins savoir qui écrivait quoi, dans quelques circonstances, et puis comment il écrivait, et son entourage, quoi.
Vous avez Beethoven, Prokofiev, Lully, oui. Tchaïkovski, Chopin, Ravel, je ne vais pas tous les dire. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Mozart, évidemment.
Ah oui.
Ce sont des amis, ces compositeurs-là ?
Oui, c'est savoir.
Des maîtres, c'est...
Savoir.
Quel rapport vous avez avec eux ?
Ben, c'est-à-dire leur histoire, leur suivi, tout ça. Ben, mon maître était un élève personnel de Gabriel Fauré, qui lui-même était un élève de Camille Saint-Saëns, lequel était un élève de Franz Liszt, lequel... on finit plus. Mais j'aime bien savoir, et puis, leurs concepts de l'époque, les ennuis qu'ils ont pu avoir de leur temps, avec ben, ce pauvre Prokofiev qui meurt le même jour que Staline, on n'en a pas parlé.
Oui,
c'est incroyable. L'avènement, alors Lully, l'avènement de l'opéra et l'avènement de la mise en français sur la musique, parce qu'avant c'était en italien, ou alors c'était du Moyen-Âge, c'est autre chose.
Vous parlez un peu de Lully quand même, c'est sous Louis XIV.
Oui. Oui, ben, quand Louis XIV a voulu structurer la langue française, de façon à ce que la France, toute la France puisse parler français. Quoi. Et donc les opéras étaient commandés en français, et Lully avait du mal à se débrouiller, lui qui était italien. Et il a dit, bon, ben, ça va, une syllabe par note, et ça marche. Et c'est vrai que ça marche. Ça, c'est intéressant.
Enfin, et ça pose la question du rapport de la musique au pouvoir aussi, puisque Lully, c'était le compositeur officiel, finalement.
Tiens, c'est bien de brouiller pour. Mais oui. Plus personne ne pouvait donner de spectacle avec plus de 4 ou 5 musiciens. Il n'y a que lui qui avait le droit d'avoir des grands orchestres, etc. D'où ça brouille avec Molière. Enfin bon, c'est tout un monde. Donc il faut, quand on connaît l'un, on attrape l'autre. Quand on connaît l'autre, ben, on recherche sur un autre. Enfin, ça n'en finit plus. Tout ça, c'est imbriqué.
On retourne dans la bibliothèque d'en face et je vois beaucoup, beaucoup de romans de Colette.
Oh oui.
Qu'est-ce qui vous plaît chez Colette ?
Pourquoi ? Chez Colette, on ne lit pas les mots, on vit les histoires.
Ah, c'est beau ça.
Ah oui, c'est vrai. Ça coule d'une telle façon qu'on voit, on voit des films, on voit des... On ne s'arrête pas. Aussi, il y a quelques mots, des fois, qui sont surprenants ou qui sont régionaux. Mais en principe, j'aime Colette, je vis l'histoire. Tiens, encore.
Encore les MacLeod.
Oui, encore, oui. Mais au milieu de la salle, je ne sais pas ce que ça fout là. Mais oui, non, Colette, c'est... Je l'ai en séparé, évidemment. J'ai une grosse collection dans une grosse édition.
Une collection bouquins.
Voilà. Et puis...
Vous la relisez régulièrement ?
Ah oui. Oh, la maison de Claudine, qui commence par... La maison était grande, coiffée d'un grenier haut. Ça, boum, on a l'image.
Il y a beaucoup de beaux livres. Et puis, il y a des vinyles aussi.
Oh oui, bah, ceux qui me restent.
Ben voilà, c'est ça, il n'y en a pas tant que ça finalement.
Ben non, ben c'est après les enfants passent et puis je te pique ça. Et je te pique ça.
Vous avez des William Scheller ou pas ?
Non.
Vous gardez pas vos,
non.
Vos disques ? Vous savez pas où ils sont ?
Non, il y en a un ou deux.
Vous réécoutez pas vos anciennes chansons et
non,
tout ?
Non, jamais. Elles sont sur Internet, on s'en fout.
Mais vous, parfois vous dites pas, tiens, j'ai envie de me réécouter, je me rappelle plus.
Faire le point éventuellement, mais... Faire le point quand j'ai dit je décide. Je vais jouer Greta Garbo, Je dis, j'arrête.
Oui, vous n'avez même pas de piano, vous m'avez dit ici.
Oui, j'ai plus de piano. J'ai vendu mon piano à Liège. Le piano est parti à Liège. En échange de quoi, j'ai fait venir un petit piano droit comme ça, histoire d'eux, pour vérifier de temps en temps une ou deux notes. Mais je ne joue plus. Du tout. Ça me... Non.
Voilà. Maintenant, vous prenez le temps de lire.
Ah oui. Ah, je prends le temps de relire des choses, de lire des choses que je n'avais jamais lues. Ouais, que j'avais acheté en me disant, tiens, un jour je vais, et puis le jour c'est pas trouvé. Enfin bon, oui, c'est... Je relis de temps en temps les pièces de Feydeau. Bon, ça m'amuse. Je relis quoi? Bon, oh, Ernest Ansermet, c'est formidable, ça. Ça explique, par exemple, que la musique ne monte pas, ne descend pas.
Ça veut dire quoi?
Ah.
Monter, descendre, c'est grave et aigu, quoi.
Oui, mais ça monte pas. C'est une amplitude de vibration.
Ah oui.
Ah oui.
C'est une fausse image.
Eh ben à cause de la pesanteur. Parce que tout ce qui est fin, on le pense en haut, et tout ce qui est gros, on le pense en bas. Donc si on avait vécu sur la Lune, on aurait entendu la musique différemment, je veux dire, dans sa tête. Hein. Il n'y aurait pas eu les graves et les aigus. Ça monte pas, ça descend pas. Alors il explique un tas de choses. Enfin, bah, c'est bien fichu. Ah bon, ouais, enfin, c'est encore de la musique, quoi. Et puis alors, il y a quand même...
Ah. Vous avez su rang de l'inconvénient d'être né.
Là, il m'a suivi toute ma vie. Il m'a suivi toute ma vie. Franchement, un texte que j'aime bien, c'est l'amour. Alors c'est plus l'amour, cet échange de salive qui trouve son absolu dans la misère des glandes. Hein?
Ah mais il est sombre, sur rang, forcément.
C'est pas sombre, c'est rigolo. Mais c'est cru. Mais c'est. Eh, bon, ouais. Bon. Ah, j'aime bien ça. J'aime bien ça.
Rien que le titre est magnifique, de l'inconvénient d'être né.
Ben évidemment, ça m'a suivi toute la vie. Ça m'a aidé beaucoup à passer outre les blessures de la vie, quoi. Enfin, les blessures. Mais, bah oui, c'est l'inconvénient d'être né, quoi. Et il dit, moi, c'est, j'étais bien avant. Puis on m'a fait naître. C'est vrai qu'on se trouve projeté comme ça, boum, à moitié à mort, aveugle. Alors, j'étais bien, j'étais dans le ventre de ma mère. Encore. Là, ça allait, parce qu'elle allait tous les soirs au Théâtre des Champs-Élysées pendant la dernière semaine de grossesse. J'étais baignant. Et elle allait voir un ballet de Stravinsky qui s'appelait Jeu de cartes. Donc Stravinsky déjà a commencé à me titiller les oreilles assez tôt, je veux dire. Oh non, j'aime bien.
Suran, il fait partie de ceux qui pensent que la vie, c'est une mauvaise plaisanterie. C'est votre cas aussi ?
Oui. Ben oui, c'est une mauvaise plaisanterie. On nous lâche là, puis alors qu'est-ce qu'on a au bout quand on réalise ? Ah ben, il n'y a plus qu'à crever. Voilà. Alors, et puis il faut meubler. Et je ne sais plus qui disait ça.
Il n'y a pas de drame dans Suran, quoi. Ou alors, c'est tellement tragique que ça en devient...
Oui, c'est de la tragédie antique. Et puis on en fait ce qu'on en veut. Mais on en fait ce qu'on en peut aussi. Mais je ne sais plus qui disait, je ne pense pas que c'est lui, que le malheur de l'homme était de croire qu'il était sur Terre pour y faire quelque chose. C'est quand même vrai. Alors tout de suite, il faut.
Il faut trouver un sens absolument. Quoi.
Ouais. Alors quand on a quelque chose qui nous dépasse,
l'art.
Ah oui. Alors à ce moment-là, on est une base, on a quelque chose à se raccrocher, et puis on est poussé, on est... Oui, ça c'est autre chose. Mais une vie où on va se dire, bon ben, faut que je me trouve un boulot quand même, ça doit être difficile, oui je crois.
Merci William Scheller.
Oh ben...
Merci pour la visite.
Il va falloir venir. Il est encore.
Ah bah à bientôt, avec plaisir.
Europe 1.
De retour en studio, et je rappelle le titre de l'autobiographie de William Scheller. William, c'est facile. Dans un instant, plein d'autres livres. Il est l'heure des libraires. A tout de suite, nous partons à la 25e heure.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Retour de La Voix est libre, il est l'heure de rendre visite à un libraire, direction la 25e heure, chez Christophe Daniel.
Bonjour Christophe Daniel.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir à la 25e heure. Il y a un peu de monde, donc on s'est mis dans un petit coin pour ne pas déranger les clients. Il y a trois livres dont vous vouliez nous parler, deux livres étrangers et puis un troisième très célèbre, Vous n'êtes pas le premier à en parler, mais c'est votre manière qui va compter, c'est Jonathan Coe, on va y revenir tout de suite. Mais d'abord, Oiseau de tempête, c'est chez Grasset, de Einar Karason.
Voilà, Einar Karason qui est islandais et qui va nous raconter dans un récit assez court l'aventure d'un chalutier qui après une campagne de pêche à Terre-Neuve, rentre à la maison en Islande. Tout se passe bien jusqu'au moment où la météo change et là, ça devient l'enfer sur mer. Une tempête qui dure plusieurs jours et les marins vont lutter contre la mort, l'épuisement, la folie qui les guette en essayant de briser la glace qui s'installe sur le bateau et qui menace de faire sombrer le chalutier. C'est une écriture au cordeau, des personnages, vraiment, on vit avec eux sur ce chalutier, c'est superbe. Il faut savoir qu'en 59, donc ça se passe en 1959, il y a eu effectivement de terribles tempêtes et quelques bateaux islandais ont sombré.
C'est comme En pleine tempête, le roman qui a été adapté avec George Clooney au cinéma, tout ça, là, c'est un peu le même esprit.
Voilà, ça peut s'en rapprocher, mais le traitement et l'écriture est vraiment très précis, au cordeau et sans fioritures.
Parfait. Un deuxième, Martha et Arthur, chez Zoé Édition, et c'est signé Katia Schoenherr.
Voilà, Katia Schoenherr, elle est allemande, elle vit en Suisse, c'est son premier roman, elle écrit aussi des essais journalistiques. Et là, Martha et Arthur, c'est un couple qui a vécu 40 ans ensemble. Au moment où le livre démarre, Martha se réveille et se rend compte qu'Arthur est mort à ses côtés. Au lieu de prévenir tout de suite les autorités, elle va passer la journée près du cadavre de son mari et elle va nous raconter ses 40 années de vie de couple ratée. C'est glaçant, mais là aussi, il y a une écriture très forte. On peut penser à ce film Le Chat, adapté du roman de Simenon avec Gabin et Signoret, avec ce couple qui les humiliations au quotidien, la détestation. Et c'est vraiment une découverte.
Mais il y a un peu d'affection, un peu d'amour quand même ou...
Oui, il y a cette ambivalence aussi, parce que 40 ans de vie commune, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se souffrir, mais ils ne peuvent pas se quitter non plus. Et c'est tout ça qui nous est raconté, c'est assez extraordinaire.
Pas mal, pas mal. Martha et Arthur chez Zoé Édition de Katia Schoenherr. Jonathan Coe. On voilà. Y vient. Billy Wilder et moi, chez Gallimard. Énorme carton, encore une fois. Hein. Il est sorti il y a quelques semaines. J'imagine que vous le vendez beaucoup. Pourquoi vous l'avez aimé, vous ?
Alors, énorme carton et carton mérité. Parce que franchement, le précédent de Jonathan Coe, qui racontait 10 ans d'histoire du Brexit avec un sujet très ample, était très réussi aussi. Là, c'est un petit pas de côté qu'il fait. Et il nous emmène au cinéma. Ça fait du bien en ce moment. Et il va nous raconter le tournage d'un des derniers films de Billy Wilder, Fedora. Et la trouvaille de Jonathan Coe, c'est de trouver comme narratrice, au début du roman, une jeune fille qui passe ses vacances, elle a 17 ans, elle passe ses vacances aux États-Unis et complètement par hasard, elle va se retrouver à la table de Billy Wilder, qu'elle ne connaît absolument pas. Donc, qu'on connaisse l'œuvre de Wilder ou pas, on la découvre par l'intermédiaire de Calista, la narratrice. Et donc, c'est les adieux de Billy Wilder parce que c'est son avant-dernier film et on sait que son cinéma n'a plus tellement la cote auprès des studios d'Hollywood. L'époque est au film catastrophe. Et donc c'est son testament, son chant du cygne. C'est magnifique. On rit, on est ému aussi parce que Billy Wilder, il faut savoir qu'en plus d'être ce cinéaste génial, il a une histoire personnelle douloureuse et compliquée. Il a fui l'Allemagne nazie pour se réfugier d'abord en France, puis aux États-Unis. Et il y a toute cette vie qui est racontée, le cinéma de Billy Wilder. On croise Al Pacino, Mart Keller, évidemment, William Holden. Enfin, c'est brillant, et avec une chute à la Billy Wilder, magnifique.
Et à la Jonathan Coe.
Et à la Jonathan Coe, évidemment.
Merci beaucoup, Billy Wilder et moi, chez Gallimard de Jonathan Coe. Donc, on a dit Katia Schoenherr, Martha et Arthur chez Zoé Édition. Et puis, Einar Karason, Oiseau de tempête, c'est chez Grasset. Merci beaucoup, Christophe.
Merci, Nicolas.
À bientôt.
Europe 1.
Retour à Europe 1. Dans un instant, nous sommes rejoints par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. À tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Je vous présente Franck Tillier.
Bonjour.
Bonjour Tillier, Victor Dolande. Aujourd'hui, vous avez choisi un album intitulé « Même les monstres rangent leur chambre » de Grégoire Mabir et Jessica Martinello.
Oui, je vous présente un certain Fulbert, un monstre avec des poils hirsutes, des dents pointues, des griffes effrayantes exactement. Et dans cet album, Fulbert est comparé à un enfant. Il est aussi malicieux qu'eux, il joue tout le temps et forcément... Eh bien, comme tous les enfants du monde, il déteste ranger sa chambre. Sauf qu'une rencontre, Nicolas, va tout changer.
C'est-à-dire ?
Un certain Jeannot, un petit garçon, qui lui raconte une histoire assez incroyable. Selon lui, il existerait un monstre un peu bizarre qui a une passion. Il gobe les jouets qui dépassent dans les chambres. Il opère la nuit. Quand tout le monde dort, il pénètre sans faire de bruit dans les chambres et dévore tout ce qui dépasse. Tous les jouets qui ne sont pas à leur place, il les mange. Il ne fait aucune différence entre les chambres des enfants et des monstres. Autant vous dire que ce livre est indispensable pour tous les parents qui n'arrivent pas à se faire entendre auprès de leur chérubin et qui n'auront jamais rien. Croyez-moi, Nicolas, ça marche très très bien. Je l'ai testé sur mes trois cobayes. Non seulement ils adorent l'histoire et à la fin, vous glissez, ni vu ni connu. Avec certains jouets dépassent quand même. Je peux vous dire que dans le doute, ils s'affairent immédiatement.
Bonne idée, le titre « Même les monstres rangent leur chambre » de Grégoire Mabir et Jessica Martinello. C'était aux éditions Mijad. Franck Tillier, vous qui rangez bien votre chambre, quel est le premier roman que vous avez lu ?
Alors, aussi loin que mes souvenirs remontent, si on parle de roman, ça serait « Cro-Blanc » de Jack London.
Jack London. Voilà, fait partie de ces romans qui sont à la fois pour les enfants et pour les adultes, en fait. Il y a des doubles lectures comme
oui,
ça.
Oui, complètement. Et d'ailleurs, je pense que c'était une version plutôt jeunesse, hein, une édition jeunesse comme Vendredi, Robinson Crusoe. C'était vraiment des aventures qu'on dévorait. Et oui, c'était l'histoire incroyable de ce chien voilà, qui subit un peu la cruauté des humains dans ces grands espaces vierges. Moi, j'ai eu très vite avec ce roman... un attrait pour ces grandes aventures incroyables de personnages qui vont traverser des pays. Et ce qui était incroyable avec Cro-Blanc, c'était d'avoir, alors ça on ne s'en rend pas compte quand on le lit en étant enfant, mais d'avoir réussi à faire la prouesse d'avoir un personnage qui est un chien qui raconte son histoire. Et aujourd'hui, je suis romancier, je trouve ça extraordinaire. Et je me dis toujours, en réfléchissant mes histoires, est-ce qu'un jour je serai capable d'avoir ce... Ouais, de créer un personnage comme celui-là. Alors ça, c'est un vrai souvenir marquant. Et après, moi, j'écris des histoires très, très sombres. Et c'est vrai, j'ai un souvenir très, très fort du Orla de Maupassant qu'on avait lu avec notre professeur de français de 4e. Et,
histoire de fantôme.
Ça m'a vraiment... oui, ça m'a marqué, ça m'a terrorisé. C'est là où j'ai eu cet attrait pour quelque part, cette émotion incroyable qu'est la peur. Ça. Je me suis posé beaucoup de questions face à cette émotion-là. Et surtout, on avait un prof de français qui était capable de nous faire lire des livres comme Madame Bovary, Salammbô et Le Horla. Donc, c'était très important aussi. Évidemment, c'est les enseignants qui sont capables de nous transmettre cet amour pour le livre.
Les enseignants et les chroniqueurs jeunesse. Hein. Vous avez une grosse responsabilité, Victor. Hein.
Mais je le sais bien.
Merci, Victor. 1991, la première enquête de Charcot chez Fleuve Noir. C'est le nouveau roman superbe de Franck Tillier. Merci beaucoup, Franck Tillier. D'être passé nous voir à Europe 1.
C'est un plaisir.
À très bientôt.
Merci.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.